Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Comics Weekly, épisode numéro 20. Ce sont les sorties du 28 septembre, non du 29 d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, mercredi c'était le 29 septembre.
Ouais, effectivement.
Mon dernière sortie du mois de septembre, et donc vous aurez reconnu la voix de Claire qui m'accompagne pour cet épisode puisque Benny n'est pas disponible.
Eh oui, donc c'est moi qui m'y colle.
Puis on t'a pas vraiment laissé le choix en plus puisqu'on avait annoncé la semaine dernière.
Voilà, donc c'est bien, j'apprends... dans le Comics Weekly, que c'est moi qui dois faire le Comics Weekly de la semaine d'après. Non, non, il m'avait prévenu avant quand même. Hein.
Je suis pas sûr.
Si, tu m'avais dit, j'ai un truc à te dire, attends qu'on soit en voiture pour que je te l'annonce pour pas que tu partes.
Donc, ouais, ça a dû être quelque chose comme ça.
Ouais, ouais.
Donc, Benny n'étant pas là cette semaine, on ne va pas faire de numéro de la semaine. Sans vouloir être méchant, Claire n'ayant pas une connaissance suffisante du comics pour arriver à trouver un numéro 20 qu'elle aurait lu et apprécié, qui lui rappellerait des souvenirs ou ce genre de choses, j'ai préféré pas en faire. Voilà.
Ah oui, parce que ma grande culture comics, des souvenirs des numéros 20, je sais même pas si j'en ai beaucoup lu des numéros 20, donc non, fallait mieux de pas en faire.
Exterminators 20.
Oui, voilà, Fable 20, j'ai fait quoi, Losers 20 aussi. Donc non, j'ai pas beaucoup de numéro 20 là, notable.
Donc on va commencer directement par les news. Alors pareil, cette semaine, pas beaucoup de news, hein, c'est une semaine un peu légère. La grosse news de la semaine cependant est énorme et il y aura peut-être qu'une seule news, mais elle est gigantesque. Après donc l'annonce de l'arrêt de Wildstorm et de Zuda chez DC Comics et le limogeage de plus de 50 personnes, qui apparemment passerait à 80 aux dernières nouvelles. Nous avons appris qu'il va y avoir un nouvel éditeur en chef chez DC, en la personne de, et attention, tenez-vous bien, c'est énorme, Bob Arras, l'ancien éditeur en chef de chez Marvel avant Joe Quesada, c'est-à-dire qu'il avait été éditeur en chef de 1995 à 2000.
Ah ouais, effectivement.
Donc, voilà, donc je crois que c'est d'ailleurs le seul à avoir eu le poste d'éditeur en chef chez Marvel et chez DC. Et donc il sera en charge de la branche DC bien évidemment, mais aussi de la publication MAD qui appartient à DC, enfin en tout cas à Warner, et aussi de la branche Vertigo.
D'accord, ce qui n'est pas le cas actuellement ou
En fait actuellement il n'y a pas d'éditeur en chef chez DC. Pas comme ça. En fait, on a des co-publishers, la personne de Dan DiDio et de Jim Lee. Et en fait, Bob Arras leur rendra des comptes, tout simplement. Il sera sous leurs ordres et il leur transmettra. C'est-à-dire que lui, il va faire le lien avec tous les éditeurs de chaque série.
Ouais.
Et il fera le lien directement à Dan DiDio et Jim Lee. Et il travaillera de pair avec Jeff Jones, qui est Chief Creative Officer.
D'accord.
Alors, ça devient très compliqué. Hein. L'organigramme
ouais,
chez DC
ouais.
devient très, très compliqué. En tout cas, une personne du talent de Bob Arras qui se pointe chez DC, effectivement, Time Warner avait dit qu'il voulait changer un petit peu la philosophie de la boîte et faire qu'elle soit plus rentable, quoi, et surtout que qu'elle prenne un côté assez assez proactif dans la façon de faire. Et ben c'est le cas. On voit bien que depuis ces derniers mois, DC truste les places du classement. En termes de vente, ce qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps. Il s'entoure de personnes très importantes, enfin en tout cas de personnes de talent dans leur board member, quoi. Donc on a Jeff Jones, on a Jim Lee, bon, enfin voilà, on a des personnes assez connues qui vont avoir des gros rôles.
Ouais.
Et là maintenant on ajoute Bob Arras, qui est quand même loin d'être un inexpérimenté, puisque même avant d'être éditeur en chef, il a été scénariste des Avengers, il avait été éditeur pour les X-Men, il a été éditeur pour je ne sais plus quel autre groupe encore de séries chez Marvel. Enfin, voilà, il a vraiment un gros passif au niveau des comics. Il a travaillé chez Jim Lee en tant que co-éditeur chez Wildstorm en 2001. Après avoir après être parti de chez Marvel. Donc voilà, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a du métier, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a osé prendre des risques à l'époque, à une époque en plus où Marvel était quand même vraiment dans la merde, puisque 96-97 c'est la période de faillite de Marvel. Il a, en étant éditeur en chef, il a quand même réussi à relancer la compagnie avant de laisser les clés à Joe Quesada. C'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude. Donc voir quelqu'un comme ça, éditeur en chef chez DC, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc toi, ça te laisse un peu froide,
Ben
bien
oui,
évidemment.
enfin moi de toute façon je connais pas trop ni Marvel ni DC, mais c'est vrai que bon, de ce que j'ai pu voir là ces derniers temps, c'est clair que DC a l'air d'être pas mal dans le top des classements par rapport à Marvel. Et il semblerait que sur certaines séries Marvel, dans les X-Men, dans Spider-Man et tout, ce soit pas top. Donc c'est sûr que peut-être
C'est bon.
avoir la personne qui était avant Joe Quesada, ça pourra peut-être truster DC. Et c'est clair que ça, déjà que DC, c'est, enfin moi actuellement je préfère lire du DC que du Marvel, donc et je suis une nouvelle arrivée dans les comics, et me dire que quelqu'un qui apparemment est vraiment gage de qualité comme ça va pas m'inciter à aller voir chez Marvel, quoi.
Bon, Barbara, ça c'est des tracteurs hein, quand même. Mais voilà, on peut que saluer le boulot qu'il a fait et ne remonter une boîte qui était quand même totalement en faillite à l'époque. Donc même s'il y a des gens qui lui crachent dessus, il a quand même fait un sacré boulot. Voilà.
Ok.
Donc c'est vraiment la grosse news de la semaine. Pas beaucoup de news, mais alors celle-ci en vaut au moins
Elle
50.
écrase les autres.
Voilà, exactement. Pour terminer cette petite partie news qui va être assez courte. Cette semaine est passée aux États-Unis. Le premier épisode de No Ordinary Family.
Le pilote même.
Bah le premier épisode, quoi. c'est donc, on en avait déjà parlé, c'est une série qui lorgne énormément du côté des super-héros. Un espèce de mélange entre les Fantastic Four et The Incredibles, enfin les Indestructibles en français.
Oui, oh bah c'est clair, hein. C'est tout à fait ça.
Nous avons regardé le pilote cette semaine. Et ben, qu'en as-tu pensé, Claire?
Eh ben moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bien, que ça a bougé, que ça donne envie de voir la suite. Enfin, un bon pilote. Moi j'ai bien aimé.
Pilote qui d'ailleurs, sans la dernière séquence d'une vingtaine, trentaine de secondes, pourrait très bien s'arrêter là, être un mini-film, et on n'en parle plus.
Oui, bah comme tous les pilotes, enfin je sais que.
Ah non, il y a des pilotes quand même, on sent que l'histoire se met en place, qu'il va y avoir une suite, et c'est pas juste les 30 dernières secondes qui te disent ah tiens, va y avoir quelque chose d'énorme. Parce que là, la façon dont c'est tourné, c'est vrai que sans ces 30 dernières secondes, on enlève ces 30 dernières secondes, ça pourrait être un film qui s'arrête là. Après, à toi d'imaginer la suite.
Ouais, mais enfin ça. Non, ça, tu sens quand même que ça va avancer, quoi. Enfin que. Oui, la dernière séquence est importante, mais tu sens quand même que y a de quoi faire avec déjà ce qu'on a vu, quoi.
Pour ceux qui connaîtraient pas du tout la série, c'est une famille qui part en voyage au Brésil, je crois.
Brésil, ouais.
Ouais. Et un petit accident d'avion façon Lost plus tard, ils se retrouvent dans une eau assez étrange qui leur donne des super pouvoirs. Donc un peu Fantastic Four, mais sans le voyage dans l'espace et les rayons cosmiques.
Et des super pouvoirs qui sont en accord avec les personnes qui sont. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à la vie qu'ils vivent, en fait, c'est des super pouvoirs qui vont faciliter la vie qu'ils ont actuellement, quoi. Là où ils sont un peu frustrés, ce genre de choses, ça va.
Exactement le même
Voilà.
concept qu'avaient les quatre fantastiques. Reed Richards, qui est un scientifique et qui passait son temps à se dire, oh là là, j'ai que demain, il faut que j'aille à un endroit, il faut que j'aille à un autre pour faire mes expériences, ça puisse s'allonger. Ben Grimm, qui était quand même la grosse brute du groupe, est devenu la chose, donc en pierre très très dure. Johnny Storm, qui est un peu une tête brûlée, qui était le petit playboy et tout, est en feu. Bah, Sue était un petit peu invisible aux yeux de tous et elle est devenue invisible.
Ouais.
Voilà, donc les pouvoirs sont aussi en adéquation chez les quatre fantastiques, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Au niveau du casting, d'ailleurs, pour encore plus rappeler ce côté Fantastic Four, on a Michael Chiklis dans un rôle qui ressemble énormément à un mélange entre La Chose et Hulk, à l'exception qu'il reste... Il a toujours son visage, il n'est pas déformé ou quoi que ce soit, quoi. Mais il a un peu les mêmes pouvoirs.
Ouais.
Surtout les pouvoirs de Hulk et les fameux super bons pour se déplacer. Bon, on a des scènes super comiques, hein. D'ailleurs, le pilote est quand même principalement centré sur lui
Ouais.
et sa découverte des pouvoirs, qui est pas mal, qui rappelle un peu certaines scènes d'Heroes, notamment la scène où il se jette du bâtiment.
Ouais. Ça m'a tout à fait penser à ça. Ou enfin la scène où il essaye de se tuer pour enfin c'est tout à fait
Un peu les mêmes scènes qu'on a vues
Ouais.
dans Heroes, exactement. Ouais. On a aussi Julie Benz, qu'on avait pu voir au casting de Dexter, qui fait le rôle de la femme de Michael Chiklis. Et son pouvoir, c'est la super vitesse. C'est une
Voilà.
Flash.
C'est ça.
Qui court quand même sacrément vite, puisqu'elle atteint, je crois, les presque 900 miles à l'heure.
Ouais, 100...
Ah non, non,
Non, c'est pas
elle atteint
100 miles.
ah non, elle dépasse les 600, elle atteint les fait 890, je crois, un truc comme ça. Donc bon, enfin.
Je t'ai pas vu prendre de notes pourtant pendant qu'on le regardait.
Non, mais ça marque. Ça marque. J'ai pas fait le calcul miles kilomètre heure, mais bon, c'est quand même super rapide, sachant qu'un mile fait 1,6 et j'ai pas
Ouais.
envie de faire un calcul de tête. Donc voilà.
À vos
Enfin, elle dépasse
calculettes.
largement les 1000 km heure, quoi.
Ouais, non, non, c'est clair.
On a la fille qui devient une télépathe. Et le fils, qui était un petit peu en retard, qui avait des problèmes d'apprentissage à l'école, je ne sais plus comment on appelle ça en français,
Des
un
enfants qui
toit.
ont des difficultés.
Voilà. Lui, d'un seul coup, devient scientifique. Mais alors, c'est vraiment le personnage pas du tout exploité. Dans ce pilote,
C'est vraiment
le
la fin,
gamin.
ouais, toute toute fin.
Mais bon, on a aussi un casting extérieur à la famille assez intéressant, en la personne de l'assistante de recherche de la femme, qui l'aide dans sa découverte de pouvoir, et le district attorney, qui est l'ami de Michael Chiklis, qui l'aide
Qui l'aide
aussi, et qui
aussi.
alors lui devient fou. Mon pote est un super-héros, et la création du repère est énorme.
Ouais, non, c'est justement l'humour est vachement sur les personnages secondaires qui apportent pas mal.
Et au casting, on a quand même la superstar Stephen Collins. pardon. Ancien papa révérend de 7 à la maison.
Ouais. Et qui n'a pas du tout le même rôle.
Il n'a pas du tout le même rôle, effectivement. Donc voilà, enfin, non, franchement, une très très bonne série. À la production, on retrouve Greg Berlanti, qui a travaillé sur Everwood. Il a aussi travaillé, je crois, sur Dirty Sexy Money, ou c'est son compère qui est à la production, qui a travaillé sur Dirty Sexy Money. Enfin, principalement, ce sont des gens qui viennent plus de séries type drama que de séries d'action pure. Mais en tout cas, le premier épisode est super encourageant. Franchement, une série que l'on va suivre, je pense.
Ouais, c'est clair, ça fait partie des nouvelles séries qu'on suivra cette année.
Sans parler du fait que, bon, voilà, en plus avec ce côté super-héros et comics, il y a d'ailleurs deux trois petites références hein, comics tout au long de l'épisode qui sont vraiment sympathiques. Donc ouais, très très bonne nouvelle série et j'espère qu'elle aura du succès et qu'elle va continuer un bon moment. Puisqu'en plus, voilà, on va pas trop parler de l'histoire de manière à vous laisser quelques surprises, mais on va dire qu'ils sont pas tout seuls, quoi.
Oh, puis il y a plus Heroes, donc il faut bien remplacer une série avec des super-héros dedans, donc
Puis bon, avec un ton vraiment différent, hein.
ouais, ah
Vraiment un ton
oui, ça,
comique, le ton
ouais.
familial, c'est beaucoup plus clair, moins sombre. Donc voilà, non franchement. Et puis les effets spéciaux sont pas mal foutus quand même.
Ouais, ça
Mine
va.
de rien. Ça, c'est pas essentiel à faire un bon scénar, mais en tout cas, ça ajoute visuellement à rentrer bien dans le truc, quoi. Voilà, donc bon bah c'est sur ce qu'on conclut nos news. On va passer maintenant à la double review de la semaine. Review DC. Puisque on l'a dit, hein, on préfère lire du DC. avec le Green Arrow volume 4 numéro 4, au scénario J.T. Krull, au dessin Diogenes Nivis et à l'ancrage Vicente Cifuentes.
Tu dis bien tout ça, je suis pas sûre que je vais arriver à dire tout ça bien moi.
faut s'entraîner hein, parce
Ouais.
qu'au début ça, ouais, j'ai eu du mal. Hein. Diogenes, j'ai eu beaucoup de fois où j'ai trébuché. Donc, quatrième épisode de ce relaunch, et pour moi un épisode qui m'a laissé un très sale goût en bouche, car finalement j'ai la sensation d'avoir acheté qu'un demi-comic et non pas un comic complet. Alors toi tu n'as pas dû le voir, Claire,
Non.
mais toute la première partie où il rencontre Martian Manhunter dans la forêt, que la forêt brûle, qu'il le sauve, que tout ça, nous avons eu ça dans Brightest Day numéro 9, il y a de ça 3 semaines. C'est tout le comic de Brightest Day numéro 9.
D'accord.
Donc, je n'apprécie que très moyennement de relire 10 pages que j'ai lues il y a 3 semaines.
Bah, surtout que, enfin, moi, honnêtement, dans le comics, la partie que j'ai trouvée intéressante, c'est justement la seconde partie où il n'y a pas le Martian Manhunter, quoi. Donc, parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était expédié.
Ah bah c'est là c'est vraiment la partie Brightest Day quoi.
Ouais.
Avec le symbole blanc sur l'arbre, Martian Manhunter qui a du mal à se contrôler, qui essaye de déraciner cet arbre. Voilà. Mais tout ça, ça fait partie de Brightest Day et on a lu, c'est-à-dire, ça a été redessiné par Diogenes, mais ce sont les mêmes cases, les
Ouais.
mêmes scènes,
Ah
les
ouais.
mêmes dialogues. Enfin, moi franchement, j'ai vraiment la sensation de m'être fait voler en n'ayant acheté qu'un demi-comic.
Ah ouais, putain, ouais, c'est clair que c'est moyen, ça.
Voilà, donc moi je t'en avais pas parlé justement avant que tu le lises, bah, pour que tu aies un avis frais, parce que toi tu n'as pas lu Brightest Day.
Non.
Mais franchement, moi j'ai été déçu de ce côté-là, parce que quand j'ai vu Martian Manhunter sur la cover avec Gennaro, je me suis dit, attends, on a vu ça dans Brightest Day il y a 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, encore quoi? Qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus? Alors, je m'attendais pas à une redite totale, franchement déçu. De ce côté-là, franchement déçu.
Et puis même
Surtout
moi.
qu'en plus, voilà, enfin,
Ouais, voilà,
juste pour
c'est
terminer,
pas.
les dessins de John Dennis Nivis sur cette partie sont quand même moins bons que ceux qu'on avait eu dans Brightest Day. Ce qui n'arrange rien. Quand on l'a déjà lu, et en plus mieux dessiné.
Et même moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. On a vraiment l'impression que ça fait. Après Green Lantern qui est venu le voir, là on a Martian Manhunter qui vient le voir. Enfin, y a pas. On n'a vraiment pas l'impression que ça sert le scénario quelque part. Hein. C'est.
Ouais, c'est le buddy of the month, quoi.
Et c'est
C'est
ça, voilà,
le
exactement.
petit tandem. Chaque mois, on a un nouveau personnage qui vient. Bon, est-ce qu'il va nous faire tous les personnages DC qui sont potes avec Green Arrow comme ça? Ça deviendrait un petit peu fatigant, je pense.
Ouais. Alors que après, ça avance justement dans la seconde partie de l'épisode, qui pour moi, c'est clair que c'est y a seulement ça qui est intéressant dans cet épisode. Hein.
Ouais, mais 12 pages sur 22.
Bah ouais, c'est clair.
Voilà. Ça laisse quand même un petit souci. Jusqu'à présent, moi, j'ai trouvé cette série plutôt pas mal.
Ouais, moi aussi.
Là, j'avouerai que j'étais un peu déçu sur ce numéro-là. Bah, je te laisse parler un petit peu de la seconde partie, hein. Je me repose.
Alors la seconde partie, elle est plus par rapport aux révoltés en fait, enfin c'est-à-dire aux personnes, les gens qui sont pauvres dans la ville de Star City et qui ont du mal à joindre les deux bouts, enfin voilà, qui sont laissés pour compte, on va dire, par l'entreprise Queen. Et
Plus la destruction de Star City, puisqu'ils n'ont plus de maisons,
non
plus
mais ça ils
rien,
le
ils vivent
savent,
dans des camps.
mais ça ils le savent les gens. Si on est déjà au quatrième épisode, ils l'ont déjà.
Il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi cette série.
Voilà, bon, c'est les gens qui n'ont plus rien. Et là, enfin, en fait, on voit vraiment la lutte des classes entre les gens qui sont très riches et qui ont le pouvoir et qui ont gardé le peu de choses qui restent encore sur pied dans la ville, et les gens qui n'ont plus rien du tout et qui sont complètement laissés pour compte. Et donc, on a Marie, en fait, qu'on avait vue au premier épisode, qui était venue.
Celle que Green Arrow avait sauvée, qui s'était enfuie dans la forêt, poursuivie par des mecs qui voulaient la violer.
Voilà, c'est ça. Et donc là, on la voit qui en fait se pose en personne contestataire au nom du peuple contre les industries Queen en fait et la manière dont ils sont traités. Et
Industrie Queen d'ailleurs, qui donc récupérée par cette fameuse The Queen, l'espèce de grande prêtresse de je ne sais quoi là, avec son masque en cuir, qui d'ailleurs. On l'apprend là, et c'est là qu'il y a un gros souci de rythme, et qu'il y a des choses qui sont vraiment ellipsées de façon peut-être un peu trop abrupte. Elle s'est fondée toute une nouvelle armée qu'elle a appelée la Royal Guard. Parce que ça, on ne le savait pas jusqu'à présent. Et
Bah
c'est là,
si.
faut le comprendre à travers l'épisode.
Ah non, on l'a su sur l'épisode d'avant, justement, elle le présente au maire et tout en disant
Bah ben tiens, je me
je
rappelle
vous
plus
la
ça.
mets à votre disposition pour justement même que le maire compare ça à des Stormtroopers et tout. Enfin, non, non, si, si, on le
Ah ben
savait.
je me rappelle plus du tout, tu vois.
Donc justement, ils étaient venus se battre contre ils étaient venus dénicher Green Arrow dans la forêt l'épisode d'avant. Non, ça te dit rien?
Ah si, vaguement. Mais c'était dans l'épisode 2 en fait ça.
C'est peut-être dans l'épisode 2,
Mais
ouais,
quand
pas le
c'était quand
3.
il y avait Green Lantern.
Ouais, c'est oui, voilà, c'est ça.
Ah bah tiens, tu vois, bon bah je dis une bêtise. Bon bah c'est pas grave, tu m'as corrigé,
Donc.
c'est bien. Ouais, je me fais corriger, non mais c'est quoi ce bordel?
Donc voilà, donc en fait Green Arrow vient donc la secourir parce qu'en fait ça se passe pas bien justement avec cette Royal Guard qui en fait est là plus pour comment dire le côté répressif quoi. Et je vais pas vous en dire plus par rapport à ça. Voilà, ça se passe pas super bien. Green Arrow vient pour aider Marie. Et puis voilà, après on découvre, enfin ça lui a permis de se rendre compte de certaines choses par rapport à, en discutant avec le journaliste qu'on avait déjà vu, et en
Oui, c'est
fait
lui qui lui donne
les
les
infos,
infos.
voilà. Et en fait, bah du coup, on arrive sur une dernière page qui, enfin voilà, qui avec beaucoup de tension.
Oui, non, bah, sans trop en révéler, il va falloir agir vite.
Voilà.
Oui, parce qu'on apprend un peu plus en fait sur ce fameux serial killer qui tue bah, les personnes importantes de la ville. Ce qui est, moi, enfin, franchement, je trouve qu'il y a aussi vraiment comme je disais tout à l'heure, un gros souci de rythme. C'est-à-dire que la première partie est très lente en plus d'être une redite, et la deuxième partie est vraiment super accélérée.
Ah
En
ouais, très.
revanche, la scène de bataille entre Green Arrow et la Royal Guard est magnifique.
C'est vrai que c'est très bien fait.
On sent Nivis vachement plus inspiré, hein, d'ailleurs, dans la façon de mettre ses cases, dans la façon de mettre en scène l'action, alors que sur la partie où il a redessiné, voilà, il a fait vraiment le strict minimum, quoi. Enfin, je sais pas si t'as eu cette impression-là. La
Enfin,
partie avec Mercy Manhunter, je le
bah
trouve vraiment
l'ensemble,
faiblard,
oui,
quoi.
non, ouais, c'est clair, l'ensemble des ouais, bah, enfin, c'est vrai que le côté la forêt, tout ça, enfin, c'était un peu, oui, c'est ça, le strict minimum, quoi.
En même temps, vu que c'est pas lui qui a dû créer la scène, on lui a demandé de la refaire, il avait peut-être pas forcément envie de se fouler, quoi. Enfin, ce
Oui,
que je comprends, hein, ce que je
bah
comprends.
c'est clair, hein.
Donc, ça reste sympa. Mais comme je disais, c'est qu'un demi-comique, quoi. Si vous suivez Brightest Day, vous avez un demi-inédit.
Et même pour les gens qui ne suivent pas Brightest Day comme moi, mais qui lisent que Green Arrow, franchement, cette rencontre est un peu comme un cheveu sur la soupe. Là, on voit pas du tout comment
Ben là,
ça apporte au. Oui, mais même, enfin, je veux
on voit que la
dire.
forêt se régénère, quoi. C'est tout.
Oui, mais ça, on le savait déjà. Enfin, je veux dire, on l'avait compris. C'était pas la peine de nous faire ça,
Oui,
quoi.
mais même complètement détruite et brûlée, elle se régénère.
Ouais, mais bon, enfin, je pense que c'est nous prendre un peu pour des cons, quoi. Vraiment appuyer des choses qu'on nous a déjà fait comprendre depuis 3 épisodes, c'est bon, hein. On n'a pas besoin
Ouais.
d'un dessin non plus, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Donc, bah pour moi, ce sera finalement qu'un check-it à cause de cette première partie. Voilà, une réimpression 3 semaines plus tard, faut pas déconner, quoi.
Ouais, bah pour moi, ce sera pareil. Check it aussi, en fait.
Espérons que les prochains repartent mieux. Je pense,
Je
vu le
pense, oui.
cliffhanger qu'on a à la fin, voilà.
J'y
Autant les
pense
trois
aussi.
premiers c'était un bail, que là celui-ci, voilà. On verra bien. De toute façon, comme toujours, hein, arrivé au milieu d'un arc, il y a toujours une petite baisse avant que ça reparte pour un grand climax. Bien, on va passer au review solo maintenant. Et donc, bah, normalement, ça aurait été à Bonnie de commencer. Il n'est pas là, donc c'est à toi.
Je remplace le lapin. Donc moi, ma première review solo, ce sera Wonder Woman 603.
Fille oblige.
Voilà, exactement, c'est dit, tiens. Mais surtout que quand j'avais remplacé Steve, en fait, j'avais fait le Wonder Woman 600. Et du coup, j'avais commencé à lire le run de Straczynski, que j'avais bien aimé. Et donc, bah, en fait, depuis, je continue de lire Wonder Woman. Donc, ça va me permettre en plus de vous donner un peu mon avis sur une des premières séries, là, comme ça, que je suis régulièrement, chaque fois que ça sort. Et donc, le Wonder Woman 603, qui est donc au scénario avec Straczynski, au dessin Don Kramer, Eduardo Pensica et Alan Goldman.
Oula, oh là là, il y a du monde là. C'est pas bon
Et
déjà.
au niveau de l'ancrage, Jay Leston et Scott Koblish, pardon. Donc voilà, donc ça fait plein de monde.
Ouais, ça veut dire que Don Kramer n'est pas capable de tenir les délais et qu'il est obligé de se faire assister par deux autres dessinateurs.
Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est super beau. Donc je lui en veux pas. Donc c'est l'Odyssée partie 3 qui s'appelle donc Kérès, et j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que
Tu commences d'entrée de jeu, toi, tu t'envoies.
exactement, voilà. Wonder Woman, donc depuis que je le suis, on a eu le prologue, ensuite on a eu donc les différents épisodes, et en fait plus les épisodes ont passé et moins la série a été bonne, on va dire. C'est-à-dire j'ai accroché de moins en moins. C'est vraiment parti dans un côté mystique très 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 présent. L'épisode d'avant, on avait Wonder Woman qui parlait avec une statue pour se révéler la guerrière qu'elle est en elle. Et donc là, cet épisode-là, bah écoutez, je vous le dis en direct, cash, on y va. Elle meurt et elle revient à la vie.
Wow, bah putain. Encore plus fort que Steve Rogers,
Voilà.
qui n'est ou Batman.
Et donc, mais tout ça dans cet épisode. Et donc, on a en fait ce qui se passe pendant qu'elle est morte. Et donc, pendant qu'elle est morte, eh ben, elle rencontre Charon dans les Tartares, qui lui explique que Cadès a disparu il y a à peu près 20 ans de cela, et que donc, depuis, eh ben, il ne charrie plus les âmes de l'autre côté du Styx, que donc c'est un petit peu le bordel. Et qu'il y en a certains qui ont essayé de s'échapper, mais qui n'y arrivent pas vraiment parce qu'il y a Cerbère. Et donc, Wonder Woman lui dit, c'est pas grave, moi je dois repartir, donc je vais tenter le coup. Donc on y va, on se dit, bon bah, elle va tenter le coup avec Cerbère, voyons voir ça. Et alors là, on a donc Cerbère qui arrive, qui sniffe Wonder Woman, hein, et qui se couche en la laissant passer tranquillement.
C'est tout pourri.
Voilà, et c'est pas expliqué, hein, c'est-à-dire on a trois cases, hein, c'est tout. Et donc Wonder Woman qui revient à la vie.
Donc on a aucune explication sur pourquoi Cerber la laisse passer.
Non, aucune. Voilà.
D'accord.
Donc je sais pas, peut-être qu'elle avait un super parfum, qu'elle sentait la croquette, j'en sais rien. Donc donc voilà.
Dantastix.
C'est ça. Donc voilà, donc elle revient à la vie et puis ensuite elle repart avec ses sœurs là qu'elle doit aider et à la fin on a une petite scène quand même où on a un retour de son lasso qu'elle n'avait pas jusqu'à présent avec quelqu'un qui lui amène son lasso et avec une très très belle tirade du style nous sommes deux, il n'y a qu'un seul lasso, un de nous va mourir et ce n'est pas moi. Donc vraiment le truc qui en donne. Hein. Donc voilà. Donc bon.
Mais c'est on voit enfin qui est ce fameux grand méchant qui la poursuit donc.
Oui, même pas en fait, parce que le mec est caché dans des flammes, donc
Enfin, elle le rencontre enfin,
elle
quoi,
le
disons.
rencontre enfin, mais on ne sait pas
Ouais.
qui c'est. Enfin voilà, on se dit que ça va être sur l'épisode d'après qu'on va apprendre qui c'est, pourquoi il a fait tout ça. Enfin voilà.
Ça m'a
Donc
l'air chiant comme les pierres, ça.
ouais, bah ouais. Franchement, moi vraiment, ça m'a de plus en plus déçu. Tout le côté mystique, enfin, je veux dire, ça délaie vraiment quoi. Ça aurait pu être fait plus rapidement, mais là, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Enfin voilà, à part apprendre que Hadès a quitté les enfers depuis 20 ans et que du coup il y a la queue le long du fleuve Styx, je vois pas l'intérêt quoi. C'est vraiment et que si et que Cerbère aime bien Wonder Woman. Voilà, je trouve ça dommage parce que c'était pas mal parti, je trouve, cette idée justement pour des personnes comme moi qui ne connaissaient pas Wonder Woman et qui ont pris en route, on va dire, avec ce nouveau prologue et ce nouveau run. Ça a donné un nouveau souffle avec le nouveau costume, tout ça.
Un costume que je déteste
Moi,
moi-même,
j'aime
mais.
bien. Et en fait, bah c'est dommage, je trouve, parce que là, pour le coup, je pense que je dois pas être la seule qui était peut-être bien partie de ce nouvel univers, dans cette nouvelle mythologie entre guillemets qu'il fallait réapprendre à connaître, comprendre les choses. Et là, Straczynski part dans des délires mythologiques, mystiques, super bizarres. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et c'est bien dommage. Donc pour le coup, pour moi, ce sera vraiment un pass. Mais bon, comme je veux savoir qui c'est quand même ce gars avec le lasso là qui ne restera plus que lui à la fin, j'achèterai quand même le prochain pour savoir la suite. Voilà.
Non mais bon bah je sais pas, il s'est peut-être rendu compte que Wonder Woman allait trop vite par rapport à Superman, il l'a fait ralentir.
Oui, c'est vrai qu'elle ne marche pas, elle court.
C'est peut-être pour ça.
Donc voilà.
Non mais bon ouais. Bah, j'ai l'impression que Straczynski je sais pas. Et soit il est plus en forme, soit il a pas envie de se faire chier après s'être fait jeter de Marvel. Enfin, il est parti, mais bon, parce qu'on voulait pas faire ce que. Parce qu'on n'a pas respecté la promesse qu'on lui avait faite, et il s'est dit pourquoi je vais me faire chier avec des gens qui vont pas respecter ma promesse. Le problème c'est que si c'est pour faire du boulot de merde chez DC, bah qu'il se casse, quoi.
Bah là, c'est clair que moi, je suis déçue, hein. Vraiment.
Mais moi, sans Superman, j'ai arrêté. Wonder Woman, j'ai deux épisodes de retard, mais là, franchement, tu vois, j'ai même pas envie d'essayer de rattraper le retard.
Non, non, franchement.
Donc, j'attends encore le mois prochain son Superman Earth One, qui est une redite totale des origines de Superman à sa façon, voir ce que ça donne. Mais c'est moi la dernière chance que je donne à Straczynski chez DC. Alors, sur Brave and the Bold, il fait peut-être quelque chose de très très bien, mais sur les grosses séries, faut qu'il arrête. Qu'il reste sur des séries méconnues et il fera un bon travail, quoi. Donc voilà, il a une dernière chance pour moi et après ça sera terminé.
Et puis après, c'est pareil, hein. Je veux dire, à trop s'éparpiller, on fait mal les choses, hein. Je veux dire,
Bah, il est quand même mensuellement sur 3 séries.
bah, c'est
À
ça.
tel point, bon, apparemment, monsieur a des problèmes de santé, ce qui, bon, ça c'est autre chose. Mais en écrivant Brave and the Bold, Superman, Wonder Woman et Superman Earth One, même si Superman Earth One est un one shot, enfin un graphic novel en une seule partie, voilà, je veux dire, bon, on peut pas être partout en même temps, quoi. Donc, n'est pas Geoff Jones qui veut. Parce que bon, écrire 5 séries mensuelles, voilà. Dont une bimensuelle en fait. Mais bon, s'il n'est pas capable de tenir 3 séries en même temps, et ben qu'il n'en fasse pas 3, qu'il n'en fasse qu'une ou deux.
J'adore. C'était la partie j'aime Geoff Jones et je le dis présentée par Steve. Non, non, mais tu le passes toujours, quoi. C'est
Non, mais
vraiment.
enfin, ben, c'est parce que c'est quand même chez DC quand même le scénariste, un des scénaristes les plus vendeurs. Il y a Grant Morrison que moi je n'apprécie pas, mais voilà. En termes de vente, c'est quand même un des plus
Non,
grands.
mais je sais, je te taquine, mais
Et bah c'est quand même le maître étalon, quoi. Je veux dire, bon, il faut bien prendre un point de comparaison avec quelqu'un. Bah, prenons le top du panier, quoi. Le haut du panier plutôt. Le top du panier.
Bon, allez, c'est bon, sur Wonder Woman. T'as fait quoi, toi?
Donc, eh ben, on va passer à Marvel. On retourne chez Marvel avec Namor the First Mutant numéro 2. Toujours dans la partie le gros event Curse of the Mutants, enfin gros event façon de parler quoi. En tout cas, c'est juste un joli tag sur la couverture. Le scénario est de Stuart Moore, les dessins et l'ancrage sont d'Ariel Olivetti. Bon, alors on continue cette histoire de vampires sous-marins qu'on avait eu dans le premier. Donc, bah, pour ceux qui n'auraient pas lu le premier, en fait,
Ah
c'est
oui, on va pas
vraiment
réexpliquer.
juste un tie-in. En fait, c'est ce qui se passe entre X-Men 2 et X-Men 3. D'un côté, on avait Storm et Gambit qui allaient chercher le corps de Dracula. Et Namor, dans le premier épisode, allait chercher la tête de Dracula qui était enfermé au fond des mers.
D'accord.
Et on se rendait compte qu'il y avait des fameux vampires qui s'appellent des Achaeos, qui sont en fait des vampires sous-marins.
Ouais.
Alors moi, honnêtement, l'idée, j'avais trouvé ça un peu ridicule.
Oui, c'est vrai que comme ça, là.
Ouais, franchement, non, non. L'idée, j'ai trouvé un petit peu ridicule, mais c'était pas trop mal mené. Donc je me suis dit, bon, je vais aller voir le deuxième, on va voir. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec ces espèces de vampires sous-marins. J'ai l'impression que c'est un petit peu facile pour relier Curse of the Mutants s'il a fallu qu'on fasse un petit truc. Donc pourquoi pas des vampires sous-marins, après tout.
Mais il ressemble à quoi? Genre à des lamantins? Enfin,
Non,
ils ont quelle
non, non,
tête?
à des Atlantes,
D'accord, ok.
mais plutôt grisonnants plutôt que bleus.
D'accord, ok.
Donc voilà. Bon, moi, là en tout cas, je trouve qu'Ariel Olivetti est vraiment en forme sur cette série. Après, je sais qu'il y en a qui sont vraiment allergiques à son style. Par exemple, si je compare avec ce qu'il a fait sur Cable, je le trouve mais à un autre niveau, quoi. Il est vraiment supérieur à ce qu'il fait sur Cable. Peut-être dû au fait que, vu que c'est sous la mer, il y a vachement moins de décors à faire et qu'il peut plus se concentrer sur les personnages, ce qui lui laisse un peu plus de temps.
Oui, c'est vrai, c'est possible.
Donc je sais pas si ça vient de ça, si c'est autre chose. Il est peut-être plus inspiré sur Namor que sur Cable. Donc voilà. Bon là, Namor continue en fait bah, d'essayer de refonder cette espèce de nouvelle Atlantis sous l'île de San Francisco, bah, l'île d'Utopia des mutants. Certains Atlantes n'osent plus sortir suite à cette menace des Achaeos qui ont décidé de redéclarer la guerre, puisqu'ils étaient en paix, il y avait un pacte de non-agression qui a été rompu à la fin du premier épisode, vu que Namor, pour arriver à s'en sortir avec la tête de Dracula, a coupé en deux le chef des vampires.
D'accord.
Mais le chef des vampires a plus d'un tour dans son sac, et hop, on l'a, comment dire, on a recollé les deux parties ensemble, quoi. Et donc c'est la guerre, ça se voyait à la fin du premier épisode. Bah donc là c'est facile, ils passent à l'offensive et ils attaquent la nouvelle cité d'Atlantis, mais ils attaquent aussi toutes les petites colonies Atlantes qu'il y a éparpillées tout autour de la Terre. Et voilà, bon. On sent qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le passé de Namor. Il y a toujours aussi cette espèce de vieille sorcière qui parle à moitié en énigme pour lui donner des conseils, la vieille oracle à qui il
Ouais.
manque un œil, enfin le truc gritty comme on a l'habitude de voir quoi.
Ouais, ben ouais.
Voilà, ça pourrait tout à fait être un personnage narrateur à l'époque des eerie comics ou creepy, ce genre de
Ouais.
choses.
Ok, choix.
Voilà. Bon, franchement, le ton est pas mal. J'attends de voir. Malgré tout, il y a cette ambiance froide, mais c'est pas étonnant vu que ça se passe au fond des mers, c'est très détaché. Namor est toujours une grosse tête de con, ça change pas. Le mec est toujours très arrogant, refuse l'aide de tout le monde. On a Emma Frost accompagnée d'une étudiante d'Utopia qui viennent le voir et qui lui demande, enfin qui lui apporte quelques infos, etc. Et Emma Frost en profite pour lui dire si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Et le mec est toujours très arrogant, refuse toute aide extérieure, quoi. C'est un problème Atlante, point. Donc voilà, bon, moi franchement je trouve ça plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. La fin de l'épisode nous promet une bonne bataille.
Ouais.
On verra bien. Disons que j'hésite entre le bail et le check-it. Je dirais que c'est qu'un check-it. Parce que c'est pas la super série. Faut voir, moi j'ai peur que ça s'essouffle assez vite. Je suis toujours pas convaincu par ces vampires sous-marins. Mais il y a quand même du potentiel dans cette série, peut-être. Donc si on lui laisse sa chance. Peut-être que Stuart Moore va nous sortir quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, globalement, je trouve ça un peu mieux que X-Men.
OK.
Et pourtant, X-Men est censé être le flagship title de
Ouais.
Curse of the Mutants. Donc voilà. Donc un check-it.
D'accord.
À toi, je te repasse la parole.
Bah écoutez, on va continuer dans les figures féminines dans les comics. Donc j'ai choisi pour le deuxième numéro d'aller chez Marvel et de chroniquer le one-shot sur Valkyrie. Donc en fait Valkyrie, donc comme j'avais lu Secret Avengers, j'avais vu qu'elle était là-dedans. Et effectivement, bon, ça fait partie des personnages que je ne connais absolument pas. Et comme
C'est
j'ai
pas
vu
avec Secret
que
Avengers que tu vas la connaître, vu qu'elle ne sert à rien.
voilà, par exemple, non mais du coup je me suis dit il y a un one shot qui sort, pourquoi pas. Donc ce one shot s'appelle Tragic Opera. Il a été donc scénarisé par Brian J.L. Glass.
Scénariste de Mice Templar. Pardon.
Ah oui, d'accord. Et au niveau donc de artiste, donc il a dû faire dessin plus ancrage, on a Phil Winslade. Alors, eh ben écoutez, Valkyrie, moi, j'ai bien aimé. Donc, on nous explique en fait, donc dès le départ, on a un petit topo qui nous explique, avant même qu'il y ait les dessins, quoi, l'histoire en fait des Valkyries et donc plus particulièrement de Brünnhilde, donc la Valkyrie originelle, on va dire, avec donc tout ce qui s'est passé, le fait que donc elle était une Valkyrie à Asgard, qu'ensuite Amora l'enchanteresse l'a enfermée, qu'elle a pris contrôle de son pouvoir, qu'elle a eu différentes personnes qui ont incarné Valkyrie jusqu'à présent, mais que ce n'était pas la Brünnhilde de base. Et que là, en fait, au moment de Ragnarok, elle est morte, vraiment, Brünnhilde, et que là, elle est revenue. Et on nous explique son retour, en fait. Pourquoi on a Valkyrie dans les Secret Avengers aujourd'hui, la vraie Brünnhilde, pourquoi elle est revenue, comment ça s'est passé. Donc, on a ce retour. Donc, en fait, on nous explique qu'elle a pris possession du corps d'une nana qui s'appelle Valérie, qui était morte, et donc elle est revenue comme ça, mais sans savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'on a Brünnhilde qui est à la recherche de qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, je ne comprends pas. Et donc pendant tout l'épisode, et ben en fait, elle va, en rencontrant différentes personnes, se remémorer la vie qu'elle a eue avant. Ses souvenirs vont revenir et à la fin, ce sera donc la Valkyrie telle qu'on la connaît, la vraie de vraie, qui se souvient de tout. Donc dans cet épisode, elle rencontre plusieurs personnes. Elle rencontre entre autres la Guêpe. Donc ça permet de savoir à peu près à quel moment ça se situe donc cette renaissance, vu que
Avant Secret Invasion,
voilà,
donc.
vu que la Guêpe n'existe plus aujourd'hui.
Non, elle est morte.
Voilà.
Jusqu'à ce qu'elle revienne.
On a également des références au champ de Thor, et ce sera en fait le champ de Thor qui l'aurait ramené parmi les vivantes.
Vous reportez au run de Straczynski sur Thor, justement. Excellente chose que nous avait écrite Straczynski, il y a pourtant pas si longtemps, bizarrement. Oui, j'en remets un petit coup.
Et en fait, on a toute son histoire. Donc, on nous explique que, ben, en fait, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Valkyrie comme moi, par exemple, que donc elle a, en fait, elle a défié Odin par amour pour un mortel qui s'appelle Sigmund. Qu'ensuite, elle a eu un problème d'amour interdit avec le fils d'Odin qui était Siegfried, et c'est là qu'elle a été bannie d'Asgard. Et qu'en fait, pendant tous ces moments-là, elle a erré entre deux mondes, une fois qu'Amora l'enchanteresse, en fait, l'a bannie de son corps, et que donc elle est, voilà, elle est entre ces deux mondes-là, et qu'elle ne savait pas trop quoi faire, donc elle avait rejoint les héros sur Midgard pour les aider, et donc là, elle est revenue enfin sur Terre pour de vrai, et dans un corps, elle est plus entre deux mondes.
D'accord. Ça a
Donc,
l'air complexe, hein?
ben voilà. C'est le souci que j'ai, c'est-à-dire que c'est très bien, les dessins sont bien, c'est bien expliqué. Justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas le personnage, on peut vraiment avoir toute l'explication des différents moments les différentes incarnations du personnage, mais ça fait trop d'un coup. C'est trop, quoi. Vraiment, moi, j'ai eu du mal à tout voir, et c'est vraiment la mythologie nordique est déjà assez complexe quand on la connaît pas forcément. Là, on donne tous les noms, toutes les différentes relations qu'elle a eues dans le passé, les incarnations qu'elle a eues. Enfin, voilà, je vous donne des noms, mais voilà, il y a Samantha Parrington ou Barbara Norris qui passent là comme ça. On se dit, bon, ça a dû être des personnes qui l'ont incarnée avant Valérie, enfin voilà, c'est un peu compliqué. C'est le point faible du numéro, parce que sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est justement c'est bien d'avoir un numéro comme ça qui nous explique un peu un personnage, d'où il vient, pourquoi il est revenu, et que c'est bon. C'est à la enfin en même temps, on nous a tout mis dans le comics pour qu'on se débrouille, quoi. Donc après, on a des références à plein de choses. Si on veut en savoir un peu plus, il y a qu'à fouiller, aller voir un petit peu ailleurs pour essayer de remettre les morceaux du puzzle ensemble, quoi.
D'accord.
Donc pour moi, ce sera bah ça dépend, en fait. Ce sera un check-it si jamais voilà, vous avez pas forcément envie de connaître plus sur Valkyrie, bon bah ça va rien. Enfin voilà, vous pouvez très bien continuer à lire Secret Avengers, ce genre de choses, sans venir lire ce one shot ou un bail, hein, pour ceux qui vraiment ont envie d'approfondir un peu le personnage, qui pour le coup est vraiment enfin approfondi, quoi. Et moi, c'est vraiment pas mal, en fait, que j'ai lu ces deux comics, parce que j'ai pu faire un gros parallèle entre justement Wonder Woman, qui en ce moment est un peu dans le même style, qui est donc dans une réalité alternative où elle doit se retrouver elle-même et tout. Et là, en fait, on a eu, en l'espace d'un épisode avec Valkyrie, on a ce qu'on est en train de nous délayer depuis 4 épisodes avec Wonder Woman. Et donc, autant Valkyrie, ça a été fait trop rapidement, et peut-être que 2 épisodes, ça aurait pas été trop.
Ouais, ou un double, parce que
Ou un
tu m'as
double.
dit que c'était qu'un simple, hein, mais...
Oui, c'est un simple, ouais. Autant Wonder Woman, c'est trop délayé, et peut-être qu'un double ou un triple, ça aurait été bien suffisant par rapport à ce qu'on est en train d'avoir, quoi. Donc, voilà, trouver un juste milieu quand on nous parle comme ça des origines des personnages, et qu'on essaye de les relancer quelque part, pas trop rapide, mais pas trop long non plus, quoi. Il faut que les gens accrochent.
À savoir que quand même Valkyrie est un personnage assez méconnu de l'univers Marvel. C'est pas son passage chez les Defenders qui aura vrai. Bah, c'est ce qui a popularisé un petit peu le personnage, mais c'est pas non plus la grosse tête d'affiche, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle un C-list caractère, bah, même un D-list caractère, quoi. Donc déjà sortir un one shot sur ce personnage, c'est assez osé. Il y a comme le nom de Brian Glass qui parle pour peut-être aider à vendre.
Mais moi, en tout
Pour
cas, tu
moi,
vois, c'est...
c'est osé en tout cas de sortir un truc aussi aussi méconnu. Maintenant, bon, c'est bien fait, tant mieux. Mais c'est normal aussi que ce soit assez rapide et que ce soit pas en plusieurs épisodes, quoi. Je pense même qu'une mini-série en deux ne se serait pas vendue. C'était un trop gros risque pour Marvel.
Ouais, mais tu vois, moi, ça m'a donné envie d'aller en savoir un peu plus sur le personnage, justement, le côté. Enfin, en plus, voilà, c'est une guerrière mythologique. Enfin, je veux dire, Wonder Woman, c'est exactement la même chose. Peut-être que c'est un personnage qui pourrait plus s'utiliser dans Marvel. Après, bon, voilà, les grosses têtes d'affiche Marvel, moi, c'est pas trop mon truc. Donc, peut-être que voilà, des personnages un peu comme ça pourrait plaire aussi à d'autres personnes, quoi.
Ben, je t'invite à te relire les Defenders des années 70-80
Je suis en train
pour
de relire les
voir
10 semaines, là. Donc, je peux pas tout faire.
pour justement pour pouvoir voir Valkyrie en action.
Donc ouais, d'accord. Voilà. Donc buy ou check it, suivant votre humeur.
Très bien. Bon, bah, on va passer à la dernière review solo de la semaine. On retourne chez DC avec Time Masters Vanishing Point numéro 3. Enfin, numéro 3 sur 6. Donc c'est la série parallèle à Return of Bruce Wayne. Toujours au scénario et au dessin, Dan Jurgens et à l'ancrage, Norm Rapmund. Moi, je dois dire que c'est mon petit guilty pleasure, quoi. J'adore ce que fait Dan Jurgens, notamment sur Booster Gold, et même ce qu'il avait fait avant, sur Superman, enfin sur pas mal de choses où il était passé, quoi. J'ai toujours bien aimé ce scénariste-dessinateur. Et puis ben voilà, là, il s'en donne à cœur joie avec Booster Gold et Rip Hunter. Il nous a ramené, dans le dernier épisode, on a vu donc le retour d'un ancêtre, enfin, d'un espèce de clone de Conan qui existait chez DC, qui s'appelait Klo. Personnage qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années.
Avec un K, non?
Non, avec un C.
Avec un C? Ah.
Ouais, avec un C.
Ça aurait fait bien avec un K. Côté barbare.
Ouais, mais il y a déjà un Klo avec un K chez Marvel.
Ah.
Et
Mince.
qui est tout sauf un personnage rip-off de Conan.
D'accord.
Ça commence avec encore une séquence sur l'enfance de Rip Hunter, où il se retrouve à l'époque de la Légion, avec Brainiac, et il s'amuse avec une bague, enfin une flight ring, quoi, ce qui permet à la Légion de voler. Et il aimerait bien la garder, mais Brainiac lui dit qu'il n'y a qu'une seule bague. Qui n'appartient pas à la Légion et qu'ils ont autorisé à sortir des murs de la Légion et de l'époque de la Légion, c'est celle qu'a Booster Gold.
D'accord.
Donc son papa, parce que oui, au cas où vous ne seriez pas au courant, Rip Hunter est en fait le fils de Booster Gold, on le sait déjà depuis quelques épisodes. Donc, après ce petit passage d'un flashback, on retrouve Klo et Rip Hunter toujours. Prisonnier de cette espèce de grande pieuvre géante aux mains de ce méga sorcier qui s'appelle Serratou. Et en fait, cette pieuvre permet de voir les souvenirs, en fait. Elle fouille la mémoire des gens et Serratou découvre un petit peu certains souvenirs de Rip Hunter et notamment l'époque des super-héros et décide que ce serait peut-être pas mal d'aller y faire un tour puisque c'est enfin l'époque qu'il a envie d'aller, à laquelle il a envie d'aller, qui allie magie et technologie. Donc toujours ce concept de science et technologie réunies pour faire quelque chose d'ultra puissant. C'est un concept assez classique, hein. De son côté, lui, Booster Gold est toujours avec Starfire, pas la Starfire des Teen Titans, hein, la Starfire qui est de ce monde-là. Ils se battent contre les Mygorg et une sorcière qui s'appelle Skylee. Bruce Wayne, qu'est-ce que je dis? Superman et Green Lantern sont prisonniers de son dragon. Bref, une grosse bataille s'engage. Et finalement, ils n'ont pas forcément le dessus, quoi. Enfin, ils l'ont, mais pas très très longtemps. Elle a d'énormes pouvoirs et elle s'en sert bien.
D'accord.
Là où les choses prennent un autre tournant, c'est qu'on se rend compte que Serratou et Skylee sont en cheville. Ils travaillent ensemble. Et donc, déjà, c'est un moyen pour Rip Hunter de retrouver Booster et les autres, puisqu'ils étaient séparés. Il y a en fait un espèce de. En fait, Skylee travaille pour Serratou et du coup, ils arrivent à ouvrir un passage pour faire conquérir avec des armées de Mygorg un peu toutes les parties. Bref. Une chose intéressante, c'est la relation entre Booster et Starfire. C'est juste suggéré, hein, c'est juste une idée de ma part, enfin une hypothèse. Je pense que Starfire est peut-être la mère de Rip Hunter. Je pense que c'est peut-être la future compagne de Booster Gold. Parce qu'il y a des attitudes entre eux, des petites phrases, voilà. Enfin, je sais pas. C'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas, au niveau des dessins, au niveau des dialogues, que voilà, il y a une espèce d'amour naissant, mais
Une
d'abord
complicité.
basé sur, ouais, voilà, d'abord basé sur le côté de on est en compétition, quoi.
Ouais,
C'est
d'accord.
j'aurais pu te détruire quand on s'est rencontré. Oui, c'est ça, t'as essayé, mais t'as pas réussi. Oui, mais j'utilisais pas tout mon pouvoir. Enfin, voilà, ce genre de
Ouais, je
choses.
vois le style, d'accord.
Voilà.
Ok.
On se fight, mais c'est gentil, quoi. Donc bon, tout ça se termine pas très bien pour les super-héros, et la prochaine partie risque d'être assez explosive. Hein. Je n'en dirai pas plus. Pour terminer l'histoire, on a toujours Black Beetle et sa vieille bande qu'il a prise à travers le temps avec donc Despero, Père Dégaton et Ultra Humanite. Donc que des super vilains que tu connais très bien, hein, Claire.
Oui, là,
Donc
je la replace tout à fait.
tu vois tout à fait, ouais. Et qui donc vont à Vanishing Point, qui a été détruit. Vanishing Point, c'est la citadelle des Time Masters, en fait, ceux qui contrôlent un petit peu le temps, qui vont réparer les choses qui ne vont pas dans le temps, etc. Et qui se trouvent à la dernière nanoseconde avant l'entropie qui détruira l'univers. C'est ça le concept. Et donc Vanishing Point a été détruit.
Elle s'est pas évanouie plutôt?
Non, non, elle a été complètement détruite, elle est en ruine.
Non, mais c'était à cause de Vanish en fait.
Ah oui.
Désolée.
T'essaies de remplacer Benny au niveau des vannes, hein?
Voilà, c'est ça.
Et donc, les acolytes de Black Beetle sont pas super contents d'arriver sur un truc en ruine et se demandent ce que Black Beetle vient faire là, et leur explique qu'il est venu chercher quelque chose de super important, que je ne vais pas spoiler, puisqu'on voit ce que c'est à la fin.
D'accord.
Et je ne spoil pas, mais en tout cas, voilà, enfin, c'est vraiment une série super bien faite. Alors honnêtement, pour le moment, toujours le lien avec le retour de Bruce Wayne, bah c'est juste, oh là là, faut qu'on essaye d'aller chercher Bruce Wayne qui est perdu dans le temps. Mais il n'y a absolument aucun autre lien avec ce que nous écrit Grant Morrison.
D'accord.
Mais c'est vraiment, vraiment sympa, à condition qu'on aime les tripes de voyage dans le temps.
Ça a l'air compliqué quand même, hein,
C'est
franchement.
assez compliqué. Franchement, c'est assez compliqué, mais ça reste lisible parce que Dan Jurgens a quand même un style assez un petit peu old school, hein, façon années 80. C'est un peu la marque de fabrique, mais c'est, enfin voilà, ça reste lisible. On arrive à comprendre, même si on connaît pas tout, on arrive à avoir une bonne histoire. Alors bien sûr, il y a énormément de références à des choses qui se sont déjà passées parce que il va quand même aller chercher du vieux matos pour baser ses histoires. Mais même si on ne les connaît pas,
On
on
peut
arrive à quand
suivre.
même prendre du plaisir à lire cette histoire. C'est du bon truc de super-héros à l'ancienne, avec en plus du voyage dans le temps. Et voilà, que demander de mieux, quoi. Ça fait vraiment plaisir à lire. En tout cas, si vous voulez vraiment tout comprendre, je vous conseille d'aller sortir tous vos anciens numéros. D'aller fouiller dans les années 60, 70 et 80, parce que y a de la référence, quoi.
Et donc c'est que ce serait quoi? Donc un bail?
Ah, pour moi, c'est clairement un bail. Cette mini-série est vraiment sympa, à condition d'aimer le côté old school. Et
Ok.
d'aimer bah, le personnage de Rip Hunter et de Booster Gold, hein, quand même, qui sont quand même les vedettes de cette mini.
D'accord.
Donc pour moi, c'est un bail. Bah, pour les autres, tous ceux qui ne sont pas attirés, passez votre chemin, ça vous plaira pas. Vraiment, oubliez. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Pas de mail cette semaine, ni de message sur le répondeur.
Non.
Il y en aura peut-être la semaine prochaine, on verra.
Peut-être, oui. Le répondeur pleure, hein. Il attend vos messages.
Donc c'est pas le téléphone qui pleure.
Ben oui.
Le téléphone.
Oh non, 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 non.
Voilà.
Ça sera à couper, hein. Oh, vraiment.
Je
Parce que
sais
là, tu
pas.
vas te griller.
Oui, en mon fort intérieur, je suis fan de Claude François. J'avoue. J'avoue. Claude avec un K parce que je suis comme métalleux. Donc voilà, vous pouvez comme toujours nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, que Claire anime avec brio.
Oui, hein. Heureusement que je suis là.
Oui, ben oui, le temps s'évanouit, tel
Non, non.
Vanishing Point.
Oui. Non, mais si j'aime bien. Donc,
Et vous retrouvez tous les anciens épisodes aussi sur iTunes, comme toujours. Vous pouvez donc nous laisser des messages, une question, une suggestion, une réclamation. Je sais pas ce que vous voulez. Donc soit bah, par les commentaires via le site, soit par mail à l'adresse podcast@comiccity.fr, ou encore sur le répondeur, vous pouvez laisser un message. Un message. On ne répond pas en direct. Je sais, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais voilà. Donc au 09 70 440 497, ou encore par Skype, vous ajoutez Comic City dans vos contacts et vous laissez un message. Voilà, tout simplement.
voilà.
Quelque chose à rajouter, Benny n'étant pas là pour faire le mot de la fin, veux-tu le remplacer pour le mot de la fin que tu n'as pas préparé du coup?
Non. Ce sera le mot de la fin.
Allez, trouve-nous quelque chose.
Je sais rien. Non, je ne là, je n'ai pas du tout d'idée. Je ne sais pas. J'ai plein de mots écrits autour de moi, là, je vous en dirai un. Gnome.
Bien, bah donc Gnome sera
Voilà,
le mot de la
c'est
fin.
voilà.
C'est un peu miteux comme mot quand même.
N'est-ce pas, hein? Non, mais c'est pas Gnome, hein, c'est Gnome de chez Linux. Attention.
La première, sans l'explication, c'était mieux quand même. Ça laissait le doute planer.
Ouais, mais là, comme ça, les gens après savent que tu vois, je suis vraiment geekette à fond, quoi.
Bien, donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission normale avec le retour de Bonnie.
Une émission normale, j'adore. Ce genre-là, c'est pas une émission pas normale.
Ah, c'est pas une émission habituelle, donc c'est pas une émission normale.
Ouais.
Merci encore d'avoir pris la place de Bunny cette semaine pour le remplacer. Et donc voilà, vous le retrouverez la semaine prochaine, sauf s'il s'est perdu en vacances.
Ouais, c'est perdu entre Nice et Paris.
Ouais. Peut-être a-t-il décidé de prendre 2 semaines de vacances.
Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait que je me retape une semaine de plus.
Dans ce cas-là, moi je dis qu'il y en a qui auraient vraiment de la chance de pouvoir prendre 2 semaines de vacances comme ça.
Ouais.
Bref, donc à la semaine prochaine et à très bientôt pour les aventures de Comic City.
À bientôt.